Vous êtes sur la radio des Falaises, la radio animée par les élèves du lycée Jean Angot de Dieppe. Cette année, les élèves de première générale 2 ont participé au prix Bayeux, un prix qui récompense les reportages des correspondants de guerre sur des situations de conflit, ses conséquences pour les populations civiles ou sur un fait d'actualité concernant la défense des libertés et de la démocratie. En octobre 2023, les élèves de plusieurs établissements ont pu rencontrer le reporter de guerre Monsieur Oberlé. C'est cette rencontre que nous vous proposons de revivre tout de suite.
Bonjour, mon nom est Thierry Oberlé, je suis journaliste au Figaro. Donc je travaille au service international depuis très longtemps. Et à ce titre, donc, il m'arrive de couvrir surtout l'actualité au Proche-Orient, Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afrique noire, principalement. Mais bon, je suis allé aussi dans beaucoup d'autres pays. Là, précédemment, j'étais correspondant du Figaro à Jérusalem. Donc pendant 4 ans, j'ai vécu à Jérusalem pour couvrir l'actualité qui actuellement est très chaude d'ailleurs dans cette région. Avant, j'ai beaucoup couvert en fait la montée de Daesh en Irak et qui s'est terminée à la fin par la bataille de Mossoul. Ça m'a occupé pendant 3-4 ans. Et puis sinon, je fais beaucoup d'autres sujets un peu partout au Proche-Orient, en Afrique. Je vais vous expliquer aussi comment on travaille donc dans un service international. Le Figaro, c'est un média qui accorde beaucoup d'importance à tout ce qui est politique internationale et aux conflits qui en découlent. On a une équipe avec des correspondants qui sont permanents, qui travaillent ou alors aux États-Unis, à Washington, à Londres, à Moscou, à Jérusalem, comme c'était mon cas, aussi à Pékin. Ensuite, on a un système aussi avec pour renforcer notre équipe, on utilise beaucoup des journalistes qu'on appelle des pigistes, qui sont des gens qui vivent dans des pays, souvent des pays où il y a des conflits, et qui contribuent donc à alimenter en article le site du journal, ainsi que la version papier. On utilise aussi, selon les sujets, des photographes, qui n'appartiennent pas au journal, enfin qui sont pas salariés du journal, mais qui ponctuellement donc travaillent avec nous. Pour vous donner un exemple, par exemple l'Ukraine, il y a à peu près 4 reporters qui se relayent pour couvrir ce conflit, plus 2 ou 3 pigistes. L'émission dure en général 3 semaines sur place. Parce que très souvent, c'est des pays qu'on... Certains connaissent très bien les pays, mais on a toujours besoin, en fait, de travailler avec des assistants localement. Alors donc, par exemple, il faut un très bon chauffeur avec une... Vous avez vu des reportages, d'ailleurs, vous avez vu dans quelles conditions il faut conduire parfois près des lignes de front avec des routes qui sont en très mauvais état, avec beaucoup d'obstacles sur ces routes. Et on travaille aussi avec ce qu'on appelle un fixeur. Un fixeur, c'est par exemple en Ukraine, c'est un Ukrainien et qui va accompagner en permanence les journalistes. Qui sont très peu nombreux en fait à parler l'ukrainien. Alors que donc lui maîtrise la langue, il a des contacts, il sait par où il faut passer, il connaît les routes, et il a ce rôle qui est extrêmement important et qu'on ne voit pas, mais qui est sans qui on ne pourrait pas en fait travailler.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça ?
Tintin. Les aventures de Tintin. Non, c'est vrai. Et après, bon, c'est un métier, il faut avoir beaucoup de curiosité, en fait. Et avoir un regard aussi sur les choses. Ce qui est important, c'est de, comme vous avez pu le voir à travers les reportages que vous avez à juger, il y a aussi beaucoup de récits, il faut raconter des histoires, en fait. Avec un début, une fin, et puis de l'action. Et des portraits, on fait beaucoup de portraits. Vous avez vu, il y avait beaucoup de, parmi les reportages, beaucoup de portraits de personnes. Voilà.
Vous avez indiqué avoir résidé 4 ans en Israël, en tant que journaliste. Avez-vous assisté à des attaques, et si oui, de quel côté?
Au Proche-Orient, donc dans le conflit israélo-palestinien, on a la possibilité de travailler en principe des deux côtés, du côté israélien et du côté palestinien. Les uns et les autres, enfin les protagonistes, ont en fait l'habitude des médias, parce que ça fait 50 ans que cette histoire dure et qu'elle est très médiatisée. Donc, ils parlent assez facilement aux journalistes. Moi, j'ai fait dans ma carrière deux guerres à Gaza. Là, il y a une troisième qui vient de commencer, enfin une nouvelle qui vient de commencer. Ce qui se passe, en revanche, depuis quelques années, lorsque le conflit à Gaza, en fait, Gaza, c'est une enclave qui est placé sous blocus par les Israéliens. Il y a 2 millions de personnes qui vivent sur un tout petit territoire qui s'entassent dans des conditions assez très difficiles dans Gaza, enfin dans cette bande de terre qui est où, d'un côté il y a Israël, de l'autre côté il y a la mer, et de l'autre côté il y a l'Égypte, et tout ça c'est complètement verrouillé. Et lorsque c'est verrouillé depuis une quinzaine d'années, hein, les gens ne peuvent pas sortir, ou très peu. Ils ne sortent pas. Et lorsque, comme actuellement, il y a une guerre qui éclate, en fait, les Israéliens empêchent les journalistes de se rendre à Gaza. Il faut attendre que ça se termine, en général, pour y aller après. Pendant les 4 ans là où j'étais en poste, il y a eu beaucoup d'affrontements en fait entre les jeunes Palestiniens, que ce soit à Jérusalem, mais dans les villes israéliennes, parce qu'il y a donc à peu près 15% de la population qui sont en fait des Palestiniens qui vivent en Israël et qui ont donc la citoyenneté israélienne. Une autre partie d'entre eux habite dans un endroit qu'on appelle la Cisjordanie, qui est en partie occupée avec des colonies juives qui sont installées, et puis des restrictions aussi pour les déplacements. Et puis il y a Gaza qui est vraiment un cas particulier. Alors à Gaza, la ville est sous le contrôle du Hamas, qui est un groupe islamiste qui mène d'une main de fer à la population là-bas. En Cisjordanie, c'est l'autorité palestinienne. Ceux qui vivent en Israël, ils sont des citoyens, mais qui sont parfois un peu des citoyens de seconde zone. Et donc, il y a eu, par exemple, il y a eu deux ans, une révolte des jeunes, et des affrontements très violents qui ont duré pendant des semaines et des semaines, et ça s'est terminé par une guerre à Gaza.
Comment faites-vous pour accéder aux zones de guerre?
Ben déjà, il faut avoir ça dépend des pays. Il y a des pays où il faut déjà obtenir un visa. certains pays n'aiment pas du tout les journalistes, et donc c'est parfois compliqué d'obtenir ce document qui permet donc de rentrer dans le pays. Après, sur place, il faut en fait faut se faire accréditer parce que par les autorités locales et qui eux ensuite au cas par cas vous permettent d'accéder non pas forcément sur la ligne de front mais au plus près de ce qui se passe. Par exemple en Ukraine c'est très difficile d'accéder à la ligne de front, les Ukrainiens ne veulent pas et c'est toujours encadré par un officier ukrainien qui s'occupe des médias et qui fait une sorte de visite guidée. Ce que vous voyez en fait c'est des tout le monde fait un peu les mêmes sujets parce que il n'est pas possible évidemment pour toutes sortes de raisons de rester sur place, donc c'est des on part le matin en voiture et le soir on va dormir dans une ville un peu en se repliant à une cinquantaine de kilomètres en général mais ça n'empêche pas qu'il peut aussi y avoir des bombardements dans ces villes. Après, ça dépend des pays aussi. Quand j'étais en Irak, quand l'armée irakienne et les forces kurdes, avec l'appui des bombardements américains et français, ont combattu Daesh, là, en fait, il suffisait de partir avec une unité de l'armée irakienne. Et après, on reste avec eux, on dort avec eux. Dans en fait, les militaires, eux, ils squattent c'est des zones de combat. Donc, ils voient une belle maison, ils installent leur état-major à l'intérieur, et c'est là où on va dormir, manger, etc.
Avez-vous déjà refusé des missions ? Si oui, pourquoi et lesquelles ?
Oui, parce qu'en fait, on est volontaire. C'est jamais, on nous dit pas, tiens, toi, tu pars en Ukraine, toi, tu pars en Irak. C'est basé uniquement sur le volontariat. On y va parce qu'on a envie d'y aller. Et après, on peut très bien dire, ben non, moi, j'ai pas envie d'aller en Ukraine. C'est tout à fait, oui, bien sûr, on le fait. Oui, oui. Parce qu'il y a des pays qui nous intéressent plus que d'autres aussi, parce qu'on a appris à connaître ces pays et qu'on peut se dire, tiens, moi, j'ai pas envie d'aller en Ukraine parce que j'y connais rien aux pays d'Europe de l'Est et c'est pas mon sujet, c'est pas mon rayon. Parce qu'il faut quand même avoir une connaissance culturelle, enfin de la façon dont les gens vivent, un peu les mentalités. Il faut connaître, même si on ne parle pas la langue, c'est très important de sentir les gens et de tisser des liens. Et parfois, on est attiré par les gens d'un pays et pas d'un autre. Donc, oui, on est libre de choisir et de refuser. Non, mais c'est même pas refuser, puisque la question ne se pose pas, puisque c'est du volontariat.
Êtes-vous suivi psychologiquement quand vous rentrez en France ?
On le fait tout seul, en fait. En fait, moi, je suis d'une ancienne génération. Où on fait tout seul, où on apprend à les théâtres de guerre en allant sur le terrain. Maintenant, en fait, il y a des formations, il y a des stages pour des journalistes où on leur apprend à comment se comporter, parce que sinon, on l'apprend au fur et à mesure hein, en le faisant soi-même. Mais peut-être qu'il faudrait qu'on ait un suivi psychologique. Ça dépend, il y a des histoires qui sont plus marquantes que d'autres, ça dépend un peu de ce qui s'est passé, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a vécu.
Que pensez-vous des youtubeurs qui font de l'information ?
Ouais, enfin, moi, ils s'improvisent, en fait. Je trouve ça extrêmement dangereux, quoi. Parce que c'est pas un métier où on peut. C'est pas une activité où on peut improviser. En plus, moi, j'aurais tendance à dire que la personne qui raconte doit se mettre un peu en recul, que ce qui compte, ce sont les faits, ce qui se passe, et qu'on s'en fiche un peu de la gueule du mec qui se balade sur un front, quoi. C'est pas ça. Après, peut-être qu'il y a des gens qui font des choses intéressantes, mais je suis pas très chaud.
Quelle formation avez-vous faite ?
Bon, en fait, moi, j'ai fait une école de journalisme, hein. Il y a bien longtemps. Et après, j'ai travaillé ce qu'on appelle les informations générales des services de société, où je faisais des faits divers, des choses uniquement basées en France. Et puis après, j'ai eu la possibilité de basculer sur le service international et de me retrouver donc dans à suivre des conflits aussi. Ouais. Mais il n'y a pas une école pour les correspondants de guerre. Mais il y a en revanche des stages qui sont organisés pour apprendre un certain nombre de choses qu'il faut savoir quand on couvre ce genre d'événements.
Vous partez le plus souvent à combien ?
En fait, on part seul. On part seul. Mais souvent, en fait, c'est toujours un peu les... C'est une profession où les gens se connaissent, en fait, qu'ils soient français, italien, anglais, allemand, c'est toujours un peu les mêmes. Donc après, il y a des affinités, et ce qui est pas mal, en fait, c'est d'être toujours à deux. Parce que s'il y a un problème, l'autre pourra intervenir. C'est un peu pour un système d'entraide, mais donc ça fonctionne beaucoup sur l'amitié. Donc voilà.
Après avoir vu autant de choses traumatisantes, comment faites-vous pour retrouver la joie ?
Là, je dois avouer que j'en ai un peu marre. J'ai toujours fait. C'est un plaisir de partir, enfin, de découvrir le monde, de situations chaque fois différentes, de voyager. Faut avoir le goût du voyage. Hein. Le goût du voyage, et puis ce qu'on vit, c'est qu'on est content quand on rentre. Donc du coup, on vit peut-être plus intensément quand on rentre, parce qu'on sait que moi j'ai une fille, maintenant elle est plus âgée que vous, mais je sais que je la vois un peu moins, que je la voyais un peu moins que ce qu'elle aurait aimé, et que donc quand je suis là, on est très disponible. Voilà, moi en tout cas, après les autres, je sais pas.
Quand vous partez, êtes-vous bien rémunéré ?
Jamais assez bien rémunéré. Mais il n'y a pas de... Ça dépend. Nous, au Figaro, on n'a pas de prime de danger. Les gens qui travaillent en radio, par exemple, qui travaillent à Radio France... ou dans des chaînes de télévision nationale, enfin d'État, on va dire, eux ont des primes de risque. Ouais. Mais moi, non.
Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez vraiment eu peur pour votre vie ?
Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Mais c'est important d'avoir peur. Parce que le fait d'avoir peur, ça permet de ne pas être inconscient, de ne pas se mettre en danger de manière trop importante. Parce qu'à un moment, il y a une petite musique qui fait qu'on a peur et on se dit, tiens, non, là, Il arrive qu'on qu'on quitte un endroit parce que on sent que c'est plus, il faut absolument partir. Après, il y a des dans les situations de guerre, en fait, il y a un climat. La guerre, ça révèle beaucoup les personnalités des gens. C'est intéressant de ce point de vue-là, mais c'est aussi... il y a beaucoup de haine, en fait. Et donc, on peut se retrouver dans des situations vraiment difficiles ou avec un simulacre d'exécution, moi, ça m'est arrivé, voilà, des choses comme ça, quoi.
Quelles mesures de sécurité sont mises en place pour les journalistes ?
Ben, déjà, on a dans une zone de guerre, on porte... un gilet pare-balles, c'est des équipements qui sont donnés par le journal, un casque, parfois une voiture blindée. Il arrive qu'on loue des voitures blindées. Et voilà, principalement. Ouais.
Avez-vous déjà eu l'interdiction de divulguer les informations ?
Oui, ça arrive, oui. Ce qu'on fait dans ce cas-là, en fait, on attend d'être sorti du pays pour sortir les informations. Parce que... pour ne pas se faire arrêter, quoi. Mais après, on se grille. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ouais. Il y a des pays, par exemple en Israël, où il y a certaines informations qui sont sous censure militaire. C'est pas très utile, mais ça existe.
Êtes-vous recherché ou blacklisté dans certains pays ?
Oui, ça arrive. Hein. Moi, j'étais... blacklisté en Algérie pendant très longtemps. Il y a beaucoup de pays hein, où on n'aime pas les journalistes, où on n'aime pas la liberté de la presse. Oui, on peut se faire expulser, on peut et être blacklisté, oui. Ouais.
Quel est votre numéro de la fonction citoyenne du reporter de guerre ?
La fonction citoyenne. Il y a un côté, oui, un côté important qui est de, je ne veux pas dire le devoir d'informer, mais en tout cas de participer à la diffusion d'informations qui semblent importantes de mettre à la connaissance du plus grand nombre. Et en cela, il y a une démarche citoyenne.
Quel a été le conflit le plus intéressant pour vous et le plus dangereux ?
Je crois que le plus dangereux, c'était la guerre contre Daesh. Parce que le danger était imprévisible. Parce que donc, il arrivait que des kamikazes se jettent dans votre direction, qu'ils viennent à pied ou en camion, piégé. Et donc, c'est ce caractère imprévisible qui rendait le travail très, très difficile. Il y avait des mines aussi, beaucoup de mines qui ont été posées partout. J'ai un collègue là, du journal qui était avec une équipe de télé, et puis notre fixeur, qui était le fixeur de Figaro. Et il a été le seul survivant. Tous les autres sont morts en sautant sur la mine. Et le plus intéressant, c'est très ancien, la guerre civile en Algérie dans les années 90. Ça m'a intéressé parce que j'ai l'impression que c'était une sorte d'avant-première de ce qui allait déferler ensuite sur le reste du monde avec la montée de de l'islam radical et de Al-Qaïda et autres groupes, enfin de 11 septembre, des choses comme ça. Et donc j'avais vraiment l'impression de vivre quelque chose de très neuf à cette époque-là et qui est malheureusement dure toujours. On l'a vu encore samedi en Israël.
Êtes-vous en relation avec des organismes ?
Oui, bien sûr, oui. Oui, 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 ils font un travail important dans l'assistance aux journalistes et surtout, en fait, ils sont là où ils sont le plus utiles, c'est dans la défense de journalistes qui sont emprisonnés dans leur propre pays. Allô, oui. C'est en ce sens-là que leur travail est important.
Est-ce que vous arrivez à vous habituer à la mort ?
Des habitudes. Ben, ouais, enfin, il y a la partie sur le terrain, hein, et puis après, il y a tout le travail de l'écriture, hein, moi je suis presse écrite, donc je suis devant mon ordi, à rédiger. Et je préfère le faire le matin en général, je suis plus en forme.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones that today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories, bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. And my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your.
Toujours sur la radio des Falaises, en direct du lycée Jean Angot. Merci de nous écouter. Enchaînons maintenant avec la deuxième partie de l'émission sur l'écologie, une émission réalisée par les secondes 10. Puis, Victoria, Maëlle et Asia auront le plaisir de vous parler des espèces animales en voie de disparition, comme les tortues, ou qui ont déjà disparu, comme le dodo. Enfin, Diwaz et Martin concluront cette émission avec une chronique sur les espèces menacées de disparition.